Bonjour à tous, chers frères et chères sœurs. Je crois que vraiment, vous voyez bien, sois tranquille mon âme, dont le Seigneur veut bien que m'a fait une expérience, instantanée, à midi 10, par là, 05. Et là, je me rends compte que personne ne contrôle rien du tout. Si à cet instant-là, Seigneur veut prendre notre vie, nous deux, ben, on se verra au ciel, n'est-ce pas? Voilà, donc vraiment, je vais remercier le Seigneur parce que vraiment, ce psaume, ça me parle beaucoup. J'ai prié avant de parler. Père Céleste, bien-aimé, merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole, purifie-nous par ta parole, s'il te plaît. Rends notre cœur disponible à recevoir le message que tu veux nous parler, aussi bien à moi et à mes frères et sœurs, pour que nous puissions vraiment entrer dans le repos de notre âme, quelles que soient les circonstances, que devant des tempêtes, des orages ou d'autres, Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Et vraiment rentrer dans ce repos que tu as préparé pour chacun de nous. Je te remets ma bouche, mes pensées, que tu me diriges pendant toute la prédication, que vraiment que ça puisse être, chacun puisse mettre en pratique ce que tu veux que nous enseignions maintenant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, notre société avance à très grands pas. Beaucoup de progrès dans la technologie, dans la médecine. Mais en regardant l'actualité, notre monde va mal. Les gens ont peur à cause des attentats, à cause des catastrophes naturelles qui se sont produites. J'ai même entendu des personnes qui me disent ils ont peur de prendre le RER. J'ai invité ma cousine qui habite à Paris, elle m'a dit non merci parce que c'est trop dangereux de prendre RER jusqu'à chez toi. Voilà, et en tant que médecin scolaire, j'ai appris aussi, il y a un nouvel symptôme qui s'est produit, il y a beaucoup d'élèves qui ont peur d'aller à l'école. Ça s'appelle la phobie scolaire. Voilà, donc plein de gens ont des peurs. Alors, est-ce que c'est possible pour nous, les chrétiens du 21e siècle, de dire « chut mon âme, sois tranquille ». Le roi David, il a réussi. Il nous a laissé ce psaume, il a écrit il y a 3000 ans. Alors, David, c'est le roi, le deuxième roi d'Israël. Je pense que vous connaissez pas mal le roi David. Il y a deux caractéristiques à retenir concernant le roi David. Première chose, Dieu l'a choisi, il était berger. Dieu l'a aimé et l'a béni. Dieu est avec David. Ça, c'est la part de Dieu. Deuxième chose, David connaît bien Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il se soumet à Dieu. Comme tout à l'heure, Tatiana a dit, l'obéissance est beaucoup meilleure que les sacrifices. Il sait que son sort est entre la main du Dieu Tout-Puissant. Et il marche avec Dieu. Voilà. Et voilà ce type d'homme qui nous livre l'univers de ses pensées intimes. Alors, ce calme que David écrit, hein, il dit, mon cœur, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Alors, ce calme, cet état de paix, ce n'est pas un détachement imperturbable. C'est-à-dire, je m'en moque, je m'occupe pas de ça. Non. Ni une indifférence, ou bien ça ne concerne pas une personne qui a une réaction vraiment lente, très lente, chaleur, ou quelqu'un qui est dans le coma. ou à une tension très bas. Non. Et David, ici, il nous a pas dit qu'il a calmé son être intérieur par des verres d'alcool, par une drogue, ou par un antidépresseur, ou par les techniques qu'on connaît maintenant, yoga, méditation transcendantale, etc. Non. Et ce calme, c'est pas... Nous connaissons que David, c'est le roi d'Israël. Il a fait beaucoup de combats, il a mené beaucoup de guerres. Il a bâti un royaume, il a gouverné le peuple Israël. Il a accompli de grandes choses au milieu de beaucoup d'agitation et de confusion. Il a connu la joie, l'affection, le courage, mais aussi il a connu les trahisons, la peur, les pressions et les chagrins. Ce calme, cette tranquillité dont David nous parle de son cœur, de son âme, survient au sein même de l'action, des relations et des problèmes. Cette tranquillité, cette sérénité, David l'a cherchée, il l'a voulu, volontairement. Et c'est, il nous a dit, c'est dans sa relation avec Dieu qu'il a réussi à avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde notre cœur et nos pensées. Alors, voyons ensemble comment David a fait pour obtenir ce calme devant les tempêtes. C'est pas un calme que je prends un antidépresseur et je m'en fous de ce qui s'arrive. Voilà. Donc, ça vient d'un cœur orgueilleux. Le cœur orgueilleux, il est tout le temps agité. Alors, on va voir trois choses. Premièrement, l'agitation de l'orgueilleux. Deuxième, l'apaisement de l'enfant sevré. Troisième, appel à espérer en l'Éternel. Voilà. Le verset 1, il dit, l'Éternel, je n'ai ni un cœur orgueilleux, ni de regard hautain. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Donc, le contraire de ça, c'est que l'Éternel, je suis très fort, je regarde des autres de haut et je veux faire des choses que j'arrive pas à contrôler. Voici là, le contraire. Donc, David nous dit que, vraiment, pourquoi on est agité? Parce que c'est celui qui est orgueilleux. Il a le cœur, il a à la fois les trois choses, hein. Le cœur qui est orgueilleux, les regards hautains, puis il veut faire les choses impossibles. Le cœur de orgueilleux, je suis orgueilleux, je dis, j'ai raison. Vous n'avez pas raison. Je suis centré sur moi-même. Je veux faire des choses toujours selon ma manière. Tout le monde doit se plier à ma manière. Je veux avoir une place dans une bonne école. Je veux avoir un travail avec une bonne rémunération. Je veux avoir un bon chef, un bon patron. Je veux avoir un mari ou une femme formidable, aimant. En tout cas, tout ça, c'est ce que je veux et je veux. L'orgueilleux, il dit ça. Est-ce que vous êtes identifié là-dedans? Je pense que tout le monde est orgueilleux. Depuis que notre ancêtre Adam a choisi de se libérer, de désobéir à Dieu et à sa parole, le péché est entré dans le monde. Et qu'est-ce que Jean l'a dit dans sa lettre? La convoitise du monde, il y a la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil. Donc l'orgueil nous colle à la peau. Personne ne peut me dire, je suis pas orgueilleuse. Même celui qui dit qu'il est timide, mais en fait c'est un orgueil qui rejette la peur des autres ne l'accepte pas. Donc l'orgueil nous colle vraiment. Supposons, je suis dans une classe. Je veux être la première de la classe. je travaille dur. Bon, premier trimestre, je suis premier. Mais mon de quoi, bol pour moi, deuxième trimestre, il y a quelqu'un qui arrive, il est plus fort que moi. Quoi que je fasse, il a pris la première place. Moi, je suis déçue, je suis vexée, ou je haïs et tout ça. Bon, mon cœur ne peut pas être agité. Voilà, vous voyez comment c'est le cœur d'un orgueilleux. Tout ce que nous désirons, on dit toujours, bah lui aussi, il désire ça. Je veux avoir une bonne santé. Est-ce trop exigeant? Non, mais tout ça, nous avons oublié. Nous sommes dans un monde corrompu et nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous déchus. Donc, ce que je veux, ce sont des désirs trompeurs qui nous... on cherche tout ça, c'est comme si on cherche du vent, on n'avait pas attrapé du vent. Toutes ces choses-là ne peuvent pas remplir notre, calmer l'agitation de notre cœur. Je regarde les autres du haut. Ça vous arrive? Je pense que ça arrive aussi. Même quelqu'un qui est très, qui pense qu'il n'a pas de mérite, il arrive quand même à trouver quelqu'un d'autre à mépriser, à rabaisser, je suppose. Donc, comme on veut toujours être meilleur que les autres, on peut y être pendant un moment, mais personne n'est parfait à part notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on n'est plus dans, sur le rang que nous voulons y être, on peut être découragé ou même des gens qui vont jusqu'à déprimer, dépressifs et se suicider. Il y a des gens qui n'acceptent pas des échecs, ils passent à l'acte. Donc, vous voyez, alors, ensuite, David, il dit, je ne m'engage pas dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. C'est-à-dire vouloir impossible, contrôler des choses que nous ne voulons pas contrôler. Là, j'ai vécu avec Michael, désolé, le volant. Le chauffeur n'a pas pu contrôler le volant. Et dans notre vie, est-ce que nous contrôlons vraiment des choses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses où on n'arrive pas à contrôler. Les résultats. Je travaille dur pendant les examens, mais est-ce que je suis sûre d'avoir 20 sur 20? Je travaille pour le bac, est-ce que je suis sûre d'être reçue? Non. Il y a des élèves qui travaillent bien, mais ils sont échoués au bac. En fait, moi, je pense que en tant qu'homme, on ne contrôle rien du tout. On a l'impression qu'on contrôle quelque chose. Surtout l'homme moderne du 21e siècle. Nous avons pu fabriquer la bombe atomique, envoyer des fusées là-haut. Mais devant le tsunami, devant les tremblements de terre, devant les vents voilà, qui à 300 km à l'heure, l'homme est désarmé. L'homme, maintenant, les chercheurs sont contents, ils veulent faire des bébés en éprouvette ou chez plein de choses. Mais si le Seigneur Jésus l'a dit, si Dieu prend ta vie le jour même, on ne peut rien faire. On ne peut rien contrôler. Celui qui contrôle, c'est Dieu. Le psaume 121. Il a vraiment bien compris. C'est l'Éternel qui nous garde. L'Éternel est notre ombre. J'ai passé en verset 7. L'Éternel nous gardera de tout mal. Il gardera notre âme. L'Éternel gardera notre départ et notre arrivée dès maintenant et à toujours. C'est ce qu'il a fait pour Michael et moi, mais en fait, c'est ce qu'il fait pour nous chaque jour de notre vie. Un jour, dans ma maison, quand je suis arrivée dans la cuisine, le parterre s'était mouillé parce que ma lave-linge a fui. Je mets à peine dans la cuisine, je suis toujours par terre. Mais je me suis relevée sans rien casser. Mais je remercie le Seigneur parce que je sais, maintenant à mon âge, je suis pas très jeune, J'aurais pu casser le col du fémur ou c'est les deux fractures les plus fréquentes chez les personnes d'un certain âge. Le poignet. Voilà, vous voyez, c'est, je me suis dit, c'est le Seigneur qui a voulu que je sois pas fracturée. Mais si j'ai la fracture, c'est aussi Seigneur. Je comprends rien du tout. Voilà, et Jésus nous dit, hein, dans Jean 5, verset 17, c'est Dieu le Père qui a l'œuvre jusqu'à présent. Dieu est en train, il a créé l'univers par sa parole. Et dans Hébreux 1, verset 5, il dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Sinon, les orbites, toutes les étoiles, tous les, je crois qu'il y aura la, il y a, le monde n'existe plus. Vous voyez? Et puis, j'aime bien, Paul, avec les Athéniens, dans le Aéophage, il a dit, c'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration de toutes choses. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Donc, vraiment, c'est le Seigneur qui est souverain, qui contrôle tout. Nous contrôle, il nous permet de contrôler certaines choses. Et si vous voulez, si moi, je veux contrôler mon mari, ou mes enfants, est-ce possible? Je crois pas. J'ai fini par comprendre que c'est impossible. Je laisse au Seigneur. Parce que sinon je serais vexée, découragée, et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment chercher à contrôler impossible, c'est impossible. Seul Dieu peut le faire. Voilà. Deuxième, le verset 2 du psaume 131. Alors, après que David a dit, il a sévré de tout ce cœur orgueilleux, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. David nous donne ici une image très très belle. Hein? Vous avez tous vu un enfant, un nouveau-né, affamé. Comment il fait le nouveau-né affamé? Il pleure d'abord. Ensuite, si la mère tarde à venir, il crie, il s'agite, il est tout rouge. N'est-ce pas, les mamans? Les mamans. Voilà. Mais une fois qu'il a pris la tétée, une fois qu'il a eu ce qu'il veut, comment il est, ce bébé? Là, il pleure. Hein, le bébé, il pleure, là. D'accord? Alors, une fois, voilà, il est comme ça. Il est apaisé. Reposé dans les bras de sa maman, même sourire, vous voyez? Toute cette image très beau, c'est pour ça. Vous voyez, auprès de sa mère. Voilà ce qui est l'âme de David. Il, vraiment, voilà. Le lait, ça symbolise vraiment l'amour, la vie que Dieu nous donne. Mais pour pouvoir recevoir cela de Dieu, il faut qu'on aille vers Dieu, être attaché à Dieu, l'obéir et avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Le bébé, il a besoin d'aller au sein de sa mère pour être apaisé. Et il connaît sa mère. Et c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous connaît, il nous appelle par notre nom. Et nous, on connaît, nous connaissons sa voix. Nous suivons notre Seigneur, nous ne suivons pas les autres. Voilà, vraiment, si nous, David, il a réussi à avoir une vie, une âme tranquille. Pourtant, en lisant sa vie, vous connaissez combien il est vraiment rude, sa vie. Quand il a été oint, comme roi, il avait, je pense, dans les 15-16 ans, est-ce qu'il est roi tout de suite? Non. Il est roi de tout Israël à l'âge de 30 ans. Et pendant ces dizaines d'années, il a dû fuir le roi Saoul qui cherche à le faire mourir. Et il a vraiment, David connaît bien Dieu parce que pendant tous les moments les plus difficiles, les plus dangereux de sa vie, il a goûté à la bonté du Seigneur. C'est ce qu'il a écrit dans le psaume 34. Quand le roi Saoul a presque attrapé David, Dieu a envoyé les Philistins pour faire divertissement et il est parti. Et deux fois de suite, Dieu a mis le roi Saoul devant David. Il aurait pu le tuer. Mais David n'a pas fait. Il a dit, je ne mets pas la main sur la personne qui est choisie par l'Éternel. Et il a dit à Saoul que c'est Dieu qui va te juger, c'est pas moi. Et pendant que, il y a une fois, il a vécu une pression, même ses proches voulaient le lâcher. Parce que quand David, en fuyant Saoul, il est allé auprès d'un prince philistin et il est parti avec ce roi. Il voulait combattre le roi philistin envers Israël. Mais Dieu a permis que les rois refusent et pendant qu'ils sont partis, ses femmes et ses enfants ont été pris par une autre peuple, les Ammonites. Et quand ils sont rentrés, ses serviteurs, ils voulaient lâcher David. Vous voyez la pression qu'il a, mais il est resté calme. Il a prié Dieu, il a demandé à Dieu, est-ce que j'ai pourchassé ces ennemis? Est-ce que tu me donnes la victoire? Et Dieu lui a dit oui. Donc il est allé, il a récupéré. Vous voyez, bon, je passe. Puis une des pires moments, c'était son fils Absalom qui l'a détrôné. Il a dû fuir Jérusalem, pareil. Il a dit au prêtre de laisser l'arche de l'Alliance dans le temple, dans le haut très saint. Il a dit, si Dieu veut que je revienne, je reviendrai. Donc, vous voyez, devant toutes ces tempêtes, tous ces mouvements vraiment orages de sa vie, David fait confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a laissé des superbes psaumes, psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et il a dit dans psaume 34, j'ai cherché l'Éternel, j'ai eu peur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà, frères et sœurs, Dieu est vraiment bon en tout temps. Dans la Bible, il nous donne les promesses. La Bible nous dit que nous, les serviteurs de Dieu, nous connaissons les malheurs, les injustices, mais Dieu nous en délivre toujours. Pas parfois, hein, c'est toujours. Donc Dieu est bon. Voilà, donc après avoir enseigné comment avoir le repos de son âme, David parle à ses compatriotes à l'époque. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. C'est un appel, hein? C'est presque un ordre. Israël, à l'époque de David, c'est le peuple que Dieu a choisi. C'est la descendance d'Abraham par Isaac, Jacob. Donc, le peuple Israël est choisi par Dieu, aimé par Dieu, béni par Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Et ce que Dieu leur demande, c'est aussi leur part, c'est de l'aimer l'Éternel, de tout leur cœur, d'obéir à l'Éternel pour vivre dans la paix, dans la joie. Donc, pour nous, nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est saint, sans péché. Il a accepté de prendre la forme d'un homme comme toi et moi pour pouvoir porter notre péché dans son corps, pour ensuite mourir à la croix. Il est venu pour recevoir le jugement, la condamnation et le châtiment du péché sur lui. Par sa mort, Jésus a apaisé la colère de Dieu envers nous, les pécheurs, et il a aussi satisfait la justice de Dieu envers le péché. Voilà, donc c'est vraiment ce Jésus qui nous demande à travers David de mettre tout notre espoir en lui. Nous avons vu dans la Bible que Jésus a calmé la tempête. Il est le maître de tout l'univers. Si nous lui confions notre agitation de notre cœur, il va vraiment calmer les tempêtes de notre cœur. Voilà. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas est-ce que en qui vous mettez votre espoir, quelle est la raison de ta vie? Est-ce que la raison de ta vie, c'est ton travail, ta promotion, l'argent, ton mariage, ton mari, ton épouse, tes enfants? Tout ça, ça semble bon, mais tout cela n'apporte pas l'apaisement de ton cœur. C'est seulement en Jésus-Christ, Jésus seul, il peut combler tout ce dont notre âme a besoin. Notre âme, là, sur les hommes du XXe siècle, sont en train de mourir de faim, de personne. Nous voyons bien dans notre monde, matériellement, nous sommes vraiment au top. Je crois qu'on n'a jamais vécu des vies aussi luxueuses que maintenant, mais le nombre des jeunes qui se suicident ou les gens dépressifs, ça monte en flèche. Voilà, donc vraiment, les choses de ce monde, les affaires de ce monde ne peuvent pas combler ce que notre âme a besoin. C'est pour ça que vraiment le Seigneur, il nous appelle à venir à lui, à entrer vraiment en relation avec lui, à lui faire confiance totalement, sans douter. Ne pas faire comme Ève, dire oui, mais non, il n'y a pas de mais. Le Seigneur est bon en tout temps. David l'a goûté. Il a invité, il a demandé aux gens, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Moi, je l'ai goûté. Je peux vous dire qu'il est bon. Alors, est-ce que vous avez goûté? Dites aux autres que l'Éternel est bon. Il faut venir goûter. Mais si on ne goûte pas lui-même, on peut pas savoir. C'est comme j'ai un bon gâteau, je l'ai mangé, je lui ai dit c'est bon. Ah, si tu manges pas, tu peux pas savoir ce que c'est. Bon, pour Jésus-Christ, c'est pareil. Il veut que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Et là, tu vas voir, tu seras pas déçu. Et là, vraiment, il nous a donné des promesses. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, vous voyez, il répète deux fois, parce qu'il se confie en toi. Dieu est le Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de joie. Il est la source de tout bonheur, de toute chose. Si nous ne sommes pas branchés sur cette source, nous aurons toujours, toujours un cœur orgueilleux, un cœur insatisfait et un cœur en agitation. Dieu n'est pas le Père Noël, frères et sœurs. Il ne te donne pas ce que ton cœur désire. Il te donne ce que lui, son cœur désire pour toi. Il va te donner ce qu'il pense meilleur pour toi. Souvent, on veut avoir des choses aux yeux de Dieu, c'est des choses minables. Dieu prépare des choses merveilleuses pour nous, mais nous, on dit, c'est trop difficile, c'est trop longtemps, c'est trop, je sais pas quoi, mais non, je préfère faire à ma manière. Non, frères et sœurs, tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est bon. Il a dit dans Jérémie, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix. Voilà, donc il y a un peu plus que 2000 ans, quand Jésus est né à Bethléem, les anges sont apparus dans la campagne auprès des bergers, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur les hommes qui sont sur la terre. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur à Bethléem. Et là, c'est dans Job. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Voyez, attaché, c'est vraiment prêt, hein. Voilà. Donc Dieu est vraiment notre soutien, notre bouclier et notre tout. Mais n'oublions pas, il nous donne des choses qui nous conviennent. Voilà. Donc pour finir, David, il a fait. Pourtant, sa vie est vraiment mouvementée. Il a connu tout. Je pense qu'il a connu plus que toi et moi, je peux dire. On n'a jamais être poursuivi par quelqu'un. Voilà. Mais il a pu garder son cœur en paix. Comme dans Philippiens 4, 6 à 7. Je crois que je vous ai sorti. J'aime bien ce... Vous voulez le lire avec moi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez ces pensées, vous avez cette paix dans votre cœur actuellement? Alors, vraiment, frères et sœurs bien-aimés, j'ai une question à vous poser à chacun, personnellement. Ça vient probablement pas de moi, mais du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ton cœur est agité et troublé aujourd'hui? Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 1, avant qu'il quitte son disciple, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Voilà. Le Seigneur te dit, si ton cœur est agité, n'est pas en paix, si ton cœur est troublé, il t'appelle à revenir à lui, de t'approcher de Jésus-Christ, repens-toi et recevoir son pardon, recentrer ta vie sur Jésus-Christ. Fais de lui la raison de ta vie. Lui faire confiance et mettre tout ton espoir en lui. Là, tu ne seras pas déçu. Et ça sera le plus beau cadeau de Noël que Jésus veut t'offrir. Et là, David, il a dit, dès maintenant et pour toujours. David n'a pas dit attends demain, d'un mois. Non, c'est maintenant. Maintenant. Comme la Bible nous a dit, maintenant, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Vraiment, choisir, croire en Seigneur, lui faire confiance, c'est vraiment une question de mort ou de vie spirituelle. Donc, frères et sœurs, c'est urgent. C'est plus urgent qu'appeler le 15. Parce que le 15, quand tu l'appelles, des fois, tu attends 15 minutes ou une demi-heure, ils viennent. Mais là, tu appelles le Seigneur, la ligne est tout le temps en communication. Ça marche. Moi, je n'ai pas l'Internet depuis une semaine. Et le réparateur va venir dans 2 semaines. Vous voyez? Mais le Seigneur ne tarde pas. Tu appelles, allô Seigneur, tout de suite. La ligne, il est là. Tu reçois la paix. Voilà. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans ce monde. Merci d'avoir accepté la mission du Père pour venir nous sauver, nous les pécheurs qui ne méritons rien du tout, Seigneur. Merci pour ton œuvre de sacrifice à la croix. Et merci pour ta grâce. Et vraiment, merci. Tu nous as promis, tu es avec nous pour toujours, jusqu'à ton retour. Et tu l'as aussi dit, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Merci Seigneur, nous croyons en toi. Amen.